Quel est le rôle, on le sait dans les grandes lignes, mais quel est le rôle d'une costumière permanente à l'Opéra de Montpellier?
En fait, mon rôle, c'est d'adapter les costumes aux chanteurs. On est à peu près 4-5 personnes en atelier. Et pour l'habillage, il y a des supplémentaires, des intermittentes qui participent qu'à l'habillage,
d'accord,
à l'entretien des costumes aussi.
Et les costumiers, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous entendent, ou des parents qui se soucient de leur carrière, de leurs enfants, quelle est la formation? C'est une formation en couture, ou est-ce qu'il y a une formation spécifique de costumière?
Oui. Il y a une formation spécifique de costumière et d'habillage. Moi, j'ai été formée dans une école au départ pour apprendre les coutures de base, et j'ai été formée, j'ai fait des formations pour fabriquer des corsets, des pourpoints, pour me spécialiser dans le costume historique.
D'accord, oui, des choses qu'on ne trouve pas tellement dans le prêt-à-porter
aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout les mêmes techniques. Les costumes de prêt-à-porter ne sont pas modifiables.
D'accord. Donc oui, alors là, ce sont des costumes toujours modifiables, apparemment.
Normalement.
Il y a des exceptions.
Oui, normalement, c'est modifiable.
D'accord.
Mais ce n'est pas toujours le cas.
Alors là, donc, on est dans la préparation du spectacle de janvier, La Flûte Enchantée. J'imagine qu'il y a des costumes, des créations de costumes. Quelles difficultés ou quelles... Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous dans ce spectacle? J'imagine que chaque spectacle a un petit peu ses particularités du côté des costumes. Qu'est-ce qu'il y a pour la Flûte Enchantée qui a attiré votre attention ou qui vous pose des problèmes?
C'est la morphologie des chanteurs qui sont complètement différentes des chanteurs qui ont fait partie de la production à Nancy.
D'accord.
Voilà.
Parce que oui, alors les costumes viennent de la production,
Ce ne sont pas les mêmes
de la création, sauf que la distribution n'est plus la même.
Si on coupe, il faudrait que je me reformule, parce qu'en fait, la création s'est faite à Nancy avec des chanteurs. Nous, on a repris, on est coproducteurs, mais ce ne sont pas les mêmes chanteurs qu'à Nancy. Donc on adapte tous les costumes à des chanteurs qui sont autres que ceux de Nancy, mais qui sont complètement différents.
D'accord. Alors ça, c'est quelque chose que le public ne réalise pas forcément. On se dit, bon, il y a une modification de distribution.
Oui,
mais qui dit modification de distribution dit adaptation du costume, ainsi de suite.
Oui. Et des fois, on se retrouve avec des gabarits qui sont carrément la moitié ou le double. Bon, ça, on ne peut pas le dire, mais c'est des morphologies complètement différentes.
D'accord. Donc vous êtes obligé de faire des ajouts de tissus? Comment ça fonctionne, tout ça?
Des fois, on fabrique un costume complètement différent. Et parfois, on doit trouver le même tissu pour adapter le costume. Et il y a des coutures à l'intérieur du costume qu'on relâche. C'est du moulage, parfois. On fait du moulage sur le chanteur.
D'accord.
Des fois, c'est pas toujours évident, ouais.
Et vous pouvez passer jusqu'à combien de temps sur un costume? Alors, c'est pour donner une idée, parce qu'on ne se représente pas bien pour adapter un costume.
Trois jours. Sachant que les délais sont très courts. On a parfois 2 semaines pour adapter toute la production aux chanteurs de l'Opéra de Montpellier.
D'accord. Alors, j'imagine, si un chanteur doit être remplacé au pied levé, ça peut être la catastrophe pour vous.
C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en période de Covid, ça arrive assez souvent. On travaille énormément, oui.
Ouais. D'accord.
On passe des dizaines d'heures sur un costume.
Et si, est-ce que c'est un métier en tension, comme on dit? Est-ce qu'on cherche des costumiers et des costumières?
Oui.
Donc on peut conseiller à des jeunes qui seraient séduits de... d'y penser sérieusement.
Oui, d'y penser sérieusement et puis d'être toujours, de garder son sang-froid.
Garder son sang-froid, c'est pourquoi alors?
C'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer devant un chanteur, même si ça ne va pas, essayer de rester zen, parce que le chanteur, en fait, ressent le stress de l'habilleur ou de la costumière. Donc,
D'accord.
C'est comme une opération, en fait.
Ouais. Donc votre travail va aussi les conditionner les artistes.
Un grand travail psychologique.
Et les mettre en dans des bonnes dispositions pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
Ouais.
D'accord. Dans le confort du costume, j'imagine, mais
confort
pas
du
seulement.
Costume, et puis qui nous oublie en fait. Il faut que les chanteurs ne s'en rendent pas compte. Ils ont besoin de concentration, donc. Ouais, les chanteurs ont besoin de concentration. Il faut qu'on soit discret et efficace.
Voilà, là du coup, ce qu'on appelle les petites mains, ça prend tout son sens.
Les petites mains, moi j'aime pas ce terme en fait.
Vous aimez pas ce terme ?
Non, mais je crois que personne n'aime dans la couture, dans les ateliers, il ne faut pas employer ce terme en fait.
Alors, je le retire, me voilà averti. Avec mes gros sabots, je ne parlerai plus de petites mains.
Non, mais c'est bien qu'on le dise parce que... Je pense qu'à côté, si on, à l'atelier, si on leur dit petite main, ça va les énerver, en fait.
Bien. Ben, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir. Alors là, je le dis pour les auditeurs, ben, on est entouré de costumes. On peut se demander qui va porter ce costume,
très, très
ces costumes
coloré,
de quel personnage. Il y a beaucoup de couleurs,
très coloré,
beaucoup de matières différentes.
Oui, c'est un très très beau spectacle, matières différentes, avec des projections. C'est magique, en fait.
Alors, dernière chose, j'imagine que c'est qu'est-ce que ça fait pour vous de les découvrir, je dirais, vivants sur scène, ces costumes.
Moi, je l'ai toujours critique. Il y a toujours des choses qui me dérangent. Donc, je cherche toujours la perfection, en fait.
D'accord. Voilà, vous voyez les petits défauts que personne ne voit, mais vous les voyez.
Oui, c'est la déformation professionnelle. Donc, ouais.
Et puis, c'est l'exigence de qualité. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, nous sommes à l'Opéra Comédie, en compagnie de Vincent Muster, directeur technique, c'est bien comme ça qu'on dit ?
Eh bien, tout à fait. C'est l'intitulé exact, directeur technique, oui.
Alors, directeur technique, mais technique de quoi ? Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu ?
Eh bien, toute la technique au service du spectacle et au service du public, hein, pour faire large... La mission du directeur technique, elle a trois grands volets. Moi, je suis un conseiller pour la direction générale et artistique. Donc, ça s'appelle techniquement l'étude de faisabilité. Hein, en gros, dans ce volet-là que je peux détailler plus tard, on pose les grandes questions. Est-ce qu'on a l'argent pour le faire ? Est-ce qu'on sait le faire ? Est-ce qu'on a le temps pour le faire ? Et est-ce qu'on a le droit de le faire ? Après ce volet au conseil, je suis manager d'une équipe, donc les services techniques. Donc là, ça recouvre tant les services bâtiments qui maintiennent l'ordre de marche du bâtiment, les services de les systèmes de sécurité, etc., le système incendie, les services de scène, donc machinerie, son, lumière, costume. Évidemment, je gère pas directement toutes ces choses-là. Moi, je suis en lien, j'ai des missions relativement... administrative et managériale dans la préparation des spectacles. Et puis le dernier volet de la fonction du directeur technique, c'est la fonction de traduction, notamment vis-à-vis, dans le contact avec les artistes, vis-à-vis des artistes de création, que sont les metteurs en scène, les scénographes, les costumiers, où là, bon, j'ai un rôle de traducteur au moment où ils formulent, où ils viennent nous amener la maquette de leur projet, où je vais poser les mêmes questions. Hein, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour le faire ? Est-ce qu'on sait le faire ? Est-ce qu'on a l'espace pour le faire ? Est-ce qu'on a le personnel pour ça ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Sauf que je vais le mettre dans une perspective plus artistique, puisqu'on va créer un objet. Hein, là, typiquement, là, vous nous rendez visite pendant les répétitions de la Flûte Enchantée. Donc là, c'est une coproduction. Nous n'avons pas eu en charge la réalisation des décors et costumes, puisque c'est notre coproducteur, l'Opéra de Nancy, qui s'en est chargé. Par contre, les deux productions suivantes, que sont Climat et Iphigénie, nous sommes le coproducteur délégué. Et donc, nous avons la charge administrative générale de la coproduction et la charge de construction des décors, costumes et accessoires. Voilà, donc là, c'est trois grandes missions. Le conseiller du directeur, le manager des équipes techniques et le traducteur. Ah, j'aime bien dire traducteur parce que c'est flatteur, mais j'ai plutôt un rôle castrateur des fois. C'est moi qui suis obligé de dire aux artistes « Désolé, on ne va pas pouvoir faire ça. On n'a pas assez d'argent ou alors il faudrait 3 mois et on n'a qu'un mois et demi devant nous. » Donc voilà, je dis ça comme ça, mais c'est pour me rassurer tout seul.
Oui. Et puis, j'imagine, parfois, il y a des infrastructures nécessaires, je sais pas, des équipements de machines ou de choses comme ça, que vous n'avez pas, vous ne les avez pas, ou c'est pas le bon modèle, ou j'imagine qu'il y a des choses comme ça aussi qui doivent se produire.
Alors, ah là là, vous me lancez sur un sujet. Attention, vous avez de quoi enregistrer longtemps, là, parce que moi, je peux partir.
Je peux enregistrer longtemps.
Je peux partir pendant 3 jours, là. Hein. Attention, hein. C'est aussi pour ça, et sans faire offense à mon ancienne maison et à mes anciens collègues, loin de là, mais c'est aussi pour ça que je suis venu ici. Et je ne suis pas directeur technique de l'Opéra National de Montpellier depuis très longtemps, depuis février l'année dernière. C'est que l'Opéra National de Montpellier fait quand même partie des grands outils en France, des outils très performants. Il y a une rénovation dans les années 2010-2012 qui a été très bien menée, qui a, on va dire, positionné l'Opéra de Montpellier un peu au-dessus du lot en termes de capacité en machinerie scénique. Et après, le reste en découle, parce que quand on a une capacité de levage, une facilité de manipulation dans le cintre, on s'adapte plus facilement aux productions qui viennent de l'extérieur que quand on a une machinerie plus traditionnelle, plus ancienne, totalement manuelle. Là, on a un cintre informatisé avec des capacités de levage qui sont importantes, un plateau à plat, une fosse d'orchestre qui, bien que les musiciens la trouvent trop petite, est quand même de taille respectable au regard des autres maisons sur le territoire.
Mmh. Alors ça, c'est des paramètres techniques, effectivement, que les spectateurs ne voient pas, dont ils n'ont pas conscience. J'ai envie de dire, s'ils le voient, quand il y a des effets de changement de décor à vue ou des choses comme ça, là, on se rend compte que c'est magique tout d'un coup. Ça marche, ça semble marcher tout seul.
Bah, quelque part, nous, on travaille pour ne pas être vus. Si on est vu, si vous venez au spectacle et si vos auditeurs viennent au spectacle et peuvent dire « Oh là là, mais quel travail de machinerie ou quel travail de lumière !» C'est qu'on s'est un peu raté. La magie, elle doit être là. Ça doit être spontané. Les gens, ils viennent vivre avec les artistes. Je dis, nous, on ne produit pas l'acte artistique. On est un coefficient multiplicateur d'émotion. Si on fait bien notre job, eh bien, les musiciens, tous les artistes de scène, dans l'expression de leur art à eux, nous, on va amener des éléments pour amplifier l'émotion.
D'accord.
Donc, surtout pas pour dire bah, qu'est-ce qu'on travaille beaucoup. C'est un peu le contraire.
Non, mais ce que je disais, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience, mais ils doivent voir, mais pas le travail, le résultat du travail.
Voilà, le résultat, tout à fait. Ils ne doivent jamais se poser la question du nombre de jours de répétition ou de la complexité du dispositif technique. Hein. C'est flagrant chez les circassiens. On doit être emmené par la poésie, par la magie de ce qu'on donne à voir, et pas par la contrainte physique sur un câble ou la puissance d'un moteur. Voilà.